simplement pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors, chaque semaine sur les Coligarigues, Montpellier, Canal Sud à Toulouse. Et bien évidemment, Radio Primitive sur Reims, où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
Nous vous diffusons une intervention qui a été réalisée sur la base d'un article publié dans le journal Courant Alternatif autour de l'opération Wambushu. Cet article intitulé « Mayotte, archipel des Comores ». Une généalogie d'une politique du pire. En effet, l'opération militaro-policière Wambushu, menée actuellement par l'État français dans la colonie départementalisée de Mayotte, sous les prétextes officiels d'une destruction de l'habitat précaire et d'une lutte contre la délinquance, amalgamée à la présence jugée illégale de Comoriens issus des trois autres îles de l'archipel, s'inscrit dans un contexte régional tout à fait particulier, dont cet article se propose d'esquisser sommairement les coordonnées historiques, politiques et sociales. C'est donc une intervention autour de ce thème que vous allez maintenant écouter pendant l'intégralité de notre heure de diffusion. Bonne écoute.
Je m'appelle William et je ne suis pas particulièrement d'ailleurs affilié officiellement à l'OCL. Simplement, si je suis ici, c'est qu'il y a quelques années, il y a Christophe Soulier qui m'avait demandé de l'accompagner. Et puis depuis quelques années, on venait chaque année tous les deux passer une journée et une soirée. Déjà, il y a une question de langage, c'est que Wambushu, c'est déjà un mot qui n'existe pas dans la langue comorienne. Le vrai verbe, c'est le U et avant le W, en fait. C'est pas WU, c'est UW. Donc, en linguistique, déjà, c'est ce qu'on appelle, vous savez, un barbarisme.
Mais c'est qui l'a
inventé, ce barbarisme ? Les flics. C'est le langage politico-médiatique, l'élément de langage politico-médiatique par lequel, initialement, cette opération a été nommée, conçue. Alors, donc... Je ne sais pas si elle a sans doute été conçue en partenariat avec la classe politique et les collectifs maorais, mais c'est assez étrange de voir qu'effectivement déjà ce terme n'existe pas. Donc ça vient du verbe « Wambushu », qui signifie, comme je l'ai peut-être mis dans l'article, « tenter de faire quelque chose », un peu dans ce sens-là. « Défaire ce que l'on a fait pour essayer de le reprendre et de le rafistoler ou de le réinitialiser, si vous voulez. » Donc c'est déjà un terme en lui-même qui n'a pas une connotation particulièrement positive, quoi. Donc voilà, déjà ça en dit long sur la manière dont le langage des quatre îles de l'archipel des Comores, dont Mayotte fait partie, est traité par l'État colonial français. Puisqu'en général, il s'agit toujours de commencer par défaire la langue du colonisé pour mieux le dominer. Et là, vraiment, le simple mot qui intitule cette opération est emblématique de ce processus qu'on a bien connu et qu'on connaît encore dans d'autres endroits du monde, dans le cadre d'impérialisme ou de colonialisme, quel qu'il soit. Donc voilà, ça c'était déjà le premier point. La langue de l'autre, piéger la langue de l'autre et la retourner contre lui-même. Alors peut-être que là, l'idée c'est de dire « Ah ben oui, mais c'est à Mayotte, c'est pas aux Comores ». Donc déjà, en commençant par parler de linguistique, ça va me permettre de dire que, comme chacun sait, l'archipel des Comores, c'est un archipel qui est géographiquement constitué de quatre îles. Déjà, ne serait-ce que géographiquement, Donc il y a une entité géographique, etc. Mais c'est pas qu'une entité géographique, c'est aussi une entité historique et culturelle qui existe depuis plusieurs siècles. Donc au nord-ouest, il y a la Grande Comore. Ensuite, en descendant, c'est une oblique. Hein. Après, il y a la petite île de Moélie. Après, il y a l'île de Anjouan. Et effectivement, hop, au sud-est, au bout de l'oblique, il y a Mayotte. Donc au départ, ça, pendant des siècles, ben, c'est un archipel dont les îles sont constituées d'une population qui partage à la fois le même socle linguistique, avec des variantes dialectales, voilà. Au niveau religieux, on est dans un islam sunnite inspiré de l'ère swahili, océan indien, donc voilà. Et il y a également une même culture, une même tradition coutumière avec, par exemple, le grand mariage, c'est-à-dire qu'un homme et une femme, à un moment donné de leur vie, soit d'un homme, va faire le mariage des mariages, quoi, qui va lui donner dans la société une position de notabilité et un pouvoir à sa parole, que parfois même un ministre qui n'aura pas encore fait le grand mariage n'aura pas. Ce qui déjà, à travers ces quatre îles, traverse donc un double dispositif de pouvoir, un pouvoir traditionnel qui s'établit sur les notabilités liées à la reproduction des générations, des réseaux matrimoniaux par le biais de la coutume, et puis un pouvoir politique issu de la modernité capitaliste occidentale liée à l'histoire de la colonisation. Et tout ça, bien sûr, s'intrique, s'imbrique, se complexifie, s'articule, se manipule, etc., etc. Donc il y a un jeu d'ascenseur comme ça entre les deux. Donc voilà une unité donc, culturelle, une unité linguistique, une unité historique. Alors, quand je dis unité, c'est pas dans un sens nationaliste, etc. Moi, personnellement, c'est pas mon angle d'attaque. Hein. Je suis pas en train de défendre le nationalisme comorien. Simplement, c'est qu'il y a de fait une histoire commune, il y a un commun. Il y a une circulation, surtout entre les quatre îles. Alors c'est peut-être ça qui va nous intéresser plus par ce biais-là. Une circulation entre les quatre îles pour des raisons non seulement sociales, culturelles, économiques, mais aussi matrimoniales. Alors là, on va toucher à quelque chose d'assez sensible que Darmanin est en train d'essayer d'attaquer vraiment en son noyau. C'est que ces quatre îles sont liées par des liens, des alliances matrimoniales dans la mesure où je pense qu'il n'existe quasiment pas une seule famille, par exemple à Mayotte, qui vit dans l'île de Mayotte, qui va se dire mahoraise, qui n'est pas dans son histoire familiale ou dans sa généalogie, et il n'y a pas forcément besoin de remonter très longtemps en arrière, des liens de parenté très, très rapprochés avec Anjouan, Grande Comore, etc. Et inversement. Donc, ces liens matrimoniaux, ils tissent une véritable société, c'est un archipel qui fait société, qu'on le veuille ou non. Et c'est cela que l'histoire coloniale va venir peu à peu démanteler. Donc peut-être maintenant je peux partir sur une perspective un peu historique. Donc politiquement, avant la colonisation, c'est un archipel qui est structuré sur la base de sultanat. Donc il y a une verticalité du pouvoir politique dans chaque île avec un sultan, etc., avec des pratiques d'asservissement. Et il se trouve que dans la première moitié du XIXe siècle, il y a un conflit entre le sultan qui est là à Mayotte et celui de Anjouan. Et donc pour résister à ce sultan, le sultan de Mayotte, en 1841, se place sous la protection, enfin demande la protection de la France, qui est déjà à Madagascar à ce moment-là. Et il se place sous la protection de la France, un accord est signé, donc depuis 1841, Mayotte est française, ou sous tutelle, ou sous autorité française. Et puis à partir de là, les trois autres îles vont être peu à peu colonisées également par la France, et donc depuis 1886 jusqu'à 1946, on a une colonie, voilà, de quatre îles, qui parfois va être administrée avec Madagascar. C'est Madagascar et dépendance. On a même une période à la fin du XIXe siècle où c'est administré depuis l'île de la Réunion, qui est de l'autre côté de Madagascar, là dans l'océan Indien, pour des raisons techniques, administratives, etc. Et puis ensuite, on revient sur, à partir de Mayotte, Mayotte et dépendance, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et en 1946, c'est la territorialisation, donc la Réunion devient un département, Mayotte devient un territoire d'outre-mer. Enfin, Mayotte. Mayotte, en jouant Mohéli et la Grande Comore, c'est-à-dire l'archipel des Comores, devient territoire d'outre-mer, les quatre îles. Le chef-lieu de ce territoire de l'archipel des Comores, donc sous colonisation française, c'est à Mayotte. De 1946 à 1958, la capitale administrative et politique de ce territoire colonial français, bah, c'était à Dzaoudzi, qui est un petit îlot qu'on rejoint avec une barge à Mayotte, hein, qui fait l'aller-retour entre la Grande Terre et la Petite Terre. Donc c'était à Mayotte. Et en 1958, il y a la décision de transférer la capitale administrative de ce territoire d'outre-mer, donc les Comores, de Mayotte à l'opposé, à Moroni, qui est la ville importante de Grande Comore et qui aujourd'hui est la capitale de l'Union des Comores. Et donc c'est à partir de cette date, à partir du transfert, que se développe dans les mois qui suivent une campagne et un véritable lobbying de la part de toute une couche de la petite bourgeoisie fonctionnarisée mahoraise, de certains politiciens, appuyés par des créoles issus de Sainte-Marie de Madagascar, issus de La Réunion, et puis d'ailleurs après plus tard même issus des Antilles, qui vont travailler à ce que Mayotte soit vraiment toujours maintenue dans le giron français, parce qu'ils savent que tôt ou tard, l'ensemble des îles, et notamment avec la Grande Comore, etc., vont demander leur indépendance. Donc à partir de 1958, il y a vraiment cette idée de dissocier Mayotte, petit à petit, du devenir politique qui va être celui de l'archipel des Comores dans son ensemble. Donc, 1958, c'est le transfert de la capitale, et fin 1958, en novembre, dans une mosquée importante d'une petite bourgade de Mayotte, l'ensemble des notables et des religieux et des politiciens maorais jurent sur le Coran fidélité à la France. Donc, ils jurent sur le Coran fidélité à la France. C'est intéressant de le répéter pour voilà bien. Ça peut dissonner hein, avec certaines choses qu'on entend dans l'actualité, etc. Donc voilà, l'histoire du colonialisme français donc peut passer par le Coran pour sceller sa légitimité transcendantale, si j'ose dire. Quoi. Donc voilà. Et alors à partir de là, le mouvement populaire mahorais se crée en 1963. Un parti politique mahorais, avec certains créoles aussi originaires de Sainte-Marie de Madagascar et de La Réunion, mais surtout composé de mahorais, et qui va travailler à Mayotte française, Mayotte française, Mayotte française, jusqu'à l'indépendance des Comores en 1974-75. À ce moment-là, la consultation a lieu, une immense majorité dans l'ensemble des quatre îles et répond oui à l'indépendance, mais tour de passe-passe. Ah oui, mais si on regarde Mayotte, séparément, il y a 63% qui disent non. Alors, est-ce qu'on saucissonne l'unité territoriale, administrative et politique de cette colonie? Et est-ce qu'on dissocie l'île de Mayotte pour la compter à part et les trois autres? Eh bien, la réponse est finie par être oui. Par tout un jeu de tractations, alors là, je ne vais pas me lancer là-dedans, c'est un peu dans l'article. Le gouvernement français de l'époque n'est pas d'ailleurs très très au clair au tout début avec ça. Giscard prononce un discours où il dit qu'on ne peut pas porter atteinte à l'intégrité territoriale d'un territoire colonial et que les Comores c'est une unité et qu'on ne peut pas fracturer une unité. Enfin, c'est Giscard qui dit ça. Mais en même temps, Pierre Messmer à l'époque, enfin bon bref, pour ceux qui se souviennent, Olivier Stirne, etc., disent « Ah oui, non, non, mais quand même, c'est la consultation des populations ». Donc on passe de la population du territoire à les populations. Et ça, c'est dans le texte. Et le pluriel va être la porte ouverte, finalement, à la dissociation de Mayotte par rapport aux trois autres îles dans le cadre de cette accession à l'indépendance. Donc au final, sous la base aussi, sous la pression d'un lobbying de l'Action française aussi, qui est très très important, je pourrais développer aussi là sur, bon, on y reviendra peut-être, hein, l'extrême droite, on en parlait avec Nedjib, l'Action française, en particulier, est vraiment le vecteur qui a pratiqué un lobbying extrêmement important sur Jacques Chirac. Pierre Pujol, qui était le leader de l'Action française à l'époque, était un compagnon de promo de Sciences Po Paris avec Chirac. Donc on a les lettres de Pierre Pujol à son ami Jacques. « Jacques, c'est pas possible, tu peux pas laisser Mayotte, on peut pas perdre Mayotte, il faut faire quelque chose, etc. etc. » Donc au sein de l'État français, il y a des tiraillements, des contradictions, mais qui finalement vont aboutir malgré tout à la dissociation de Mayotte par rapport aux trois autres îles. Et tout ça va se jouer en 2 mois, juillet-août 1975. 3 juillet 1975, à l'Assemblée nationale, un texte est proposé pour que finalement on propose une autre consultation en privilégiant la singularité de Mayotte au détriment des trois autres îles. Donc le principe même de dissocier finalement le suffrage île par île. Le 6 juillet, voyant cela, Ahmed Abdallah, qui est un politicien comorien, déclare unilatéralement l'indépendance des Comores, parce qu'il voit le truc là qui est en train de se passer. Donc il essaie de les prendre de court. 3 jours plus tard, proclamation unilatérale de l'indépendance des Comores. Le soir même et le lendemain, émeute entre guillemets à Mayotte, chasse aux Comoriens, enfin à ceux qu'on va appeler ensuite les Comoriens, chasse aux ressortissants originaires des trois autres îles qui sont pour l'indépendance. Chasse aussi à certains Mahorais qui, pour eux, étaient favorables aussi à cette indépendance. Ces exactions, il y a eu des viols, on compterait apparemment quelques meurtres, déjà des opérations de décasage, c'est-à-dire d'aller péter leurs baraques et de les sortir manu militari pour les envoyer au premier bateau, à la première barque ou au premier avion, ces exactions sont commises par des milices qui s'appellent les Sorodas, et qui ont été mises sur pied au fil des années 60 dans le cadre du mouvement populaire maoré dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a été créé en 1963. Ces milices Soroda pour soldats en fait, soldats de la France quoi. Donc ça, ce sont de véritables milices de gens de Mayotte hein, qui pratiquent donc l'ostracisme, le harcèlement, le tabassage, les coups de pression, le viol, etc., etc. Sous le regard complaisant des autorités et de la gendarmerie française. Et ils s'opposent à ce qu'ils appellent les serrer la main, ceux qui se serrent la main, qui passent, eux, pour être ceux qui sont partisans d'une indépendance réunissant les 4 îles qui se serreraient la main, donc, de l'archipel des Comores. Donc, voilà, 6 juillet, proclamation unilatérale de l'indépendance, le 7, le 8, le 9, et dans les semaines qui suivent, et comme ça se passait déjà depuis quelques années, coup de pression de la part des milices donc pro-françaises, mahoraises, sur ceux qui sont soupçonnés d'être indépendantistes. Quelques jours plus tard, une clique de petits politiciens mahorais proclame unilatéralement la fondation d'un conseil général de Mayotte, alors dont Younous Abamana, qui va être une figure après de la départementalisation, s'autoproclame préfet. Et ce Conseil général de Mayotte, il va durer de manière entre guillemets sauvage de 1975 à 1977, date à laquelle des élections organisées par la République vont avoir lieu. Et une historienne comorienne qui travaille justement sur tout ça a découvert que dans les archives de la colonisation, dans les archives coloniales, de 1975 à 1977, il n'y a aucun document aujourd'hui qui reste sur les activités du Conseil général de Mayotte pendant 2 ans. C'est vide. Et n'oubliez pas qu'aux Comores, dans les 3 autres îles, une indépendance unilatérale a été proclamée aussi. Et donc, au mois d'août, les services français organisent un magnifique coup d'État à Moroni avec un certain Bob Denard qui déboule donc avec ses mercenaires et qui renverse le président Ahmed Abdallah qui, un mois plus tôt, début juillet, le 3, avait proclamé unilatéralement l'indépendance des 4 îles comoriennes. On a donc 3 îles qui vont constituer les Comores et qui vont connaître jusqu'au milieu des années 90 25 années de mercenariat piloté par Bob Denard, dont 2 présidents assassinés, sachant qu'au moment de la reddition de Bob Denard organisée sous les caméras avec une intervention interarmée de la France en 95 avec les caméras, voilà, Bob Denard se rend, ça y est, c'est fini, il arrête ses conneries aux Comores. Là, c'est au moment même où Denard venait de destituer un 3e président comorien. Donc la France vient chercher Denard, mais en même temps, ils exfiltrent le président comorien qu'il avait lui-même destitué quelques jours auparavant, et ils l'envoient à La Réunion en résidence surveillée. Et puis pour terminer sur cette nécrologie présidentielle aux Comores, en 1998, un 4e président comorien est mort mystérieusement d'un empoisonnement lors d'un voyage en Espagne. Alors ça, c'est l'histoire france-africaine des 3 îles qui sont devenues les Comores. Et on ne peut pas regarder ça en le dissociant de ce qui se passe à Mayotte, et on ne peut pas suivre l'histoire, je dirais, pro-coloniale, comme je l'ai appelé dans les articles, de Mayotte, sans en la dissociant de ce qui se passe dans les 3 autres îles. C'est-à-dire que de la part de Paris, là, il y a vraiment systématiquement un double terrain une sorte de double jeu articulé, relié, où ce qui se passe à Mayotte correspond à ce qui est en train de se passer de manière diplomatique ou postcoloniale, on peut dire, aux Comores, et inversement. Alors, en disant ça, je vais faire un grand saut, et ça m'amène au visa Balladur. 1995, janvier, pour la première fois, les ressortissants des trois autres îles des Comores ont besoin, depuis le départ de leur île respective, d'un visa d'entrée à Mayotte qui leur est délivré par l'ambassade de France. Alors ça, il faut vraiment bien comprendre, parce qu'avant 1995, les gens des trois autres îles, malgré tout le passif dont je viens de vous parler, et je résume, pouvaient tout simplement, librement, circuler à Mayotte, et donc après repartir, et donc revenir, repartir, etc. Donc voilà, ça circulait. Et en 1995, Paris impose un visa, en bonne et due forme, pour que les ressortissants des trois autres îles entrent à Mayotte. Et 1995, c'est l'année où ils viennent chercher Bob Denard à Moroni, donc où la politique finalement postcoloniale de Paris par rapport aux Comores passe à autre chose. Donc il y a vraiment toujours la volonté de maîtriser la situation de part et d'autre, mais avec des stratégies différentes. Donc à partir de là, ça va développer, la circulation ne s'arrête pas, sauf que maintenant il faut prendre des risques. Donc depuis 1995 jusqu'à aujourd'hui, on est à peu près à 20-25 000 morts en mer. Donc les bateaux partent du sud d'Anjouan, il y a 70 km de mer et arrivent à Mayotte. Alors, c'est pas parce que les gens fuient coûte que coûte une situation tellement intolérable qu'ils sont prêts à risquer leur vie pour arriver dans l'Eldorado de Mayotte qu'il y a des morts. C'est qu'en fait, les conditions de surveillance et de contraintes qui sont imposées aux ressortissants des trois autres îles par la douane française et la police, la PAF, etc., pour entrer à Mayotte, les obligent, et obligent les passeurs, entre guillemets, à prendre des risques en termes de voies de navigation, d'horaires de navigation, etc. Et donc là, ils se prennent le fracas des lames en plein, ils arrivent sur les platiers de corail, donc c'est extrêmement dangereux. Parce que c'est une véritable chasse, quoi. Donc j'ai résumé les dispositifs technologiques là, et matériels qui sont mis en œuvre pour empêcher donc, ce qui est devenu l'immigration illégale des Comoriens à Mayotte. C'est toujours absurde, on est obligé d'employer des mots, mais par rapport à ce qu'est l'histoire de cet archipel, on est obligé d'employer les mots du pouvoir, en fait, à un moment donné, parce que sinon on ne comprend plus, mais c'est absurde, en fait. Wambushu va arriver, mais Darmanin annonce, là, pour la fin de l'année, 1250 destructions de plus, la construction d'un deuxième centre de rétention administrative, l'implantation d'une nouvelle prison, qui est déjà à 300% de ses capacités actuellement, surtout depuis l'opération, puisque tous les espaces, en fait, de contention, de rétention, de détention, sont utilisés. Il y a même une ancienne maison des jeunes et de la culture, où j'allais faire de la musique, là, à l'époque, d'ailleurs, qui a été transformée en camp. Et apparemment, j'ai appris aussi cette semaine que les demandeurs d'asile en provenance d'Afrique des Grands Lacs occupent un stade. Donc Wambushu, en fait, c'est la suite logique de cette histoire. Visa Balladur, 95. Depuis 95, il y a eu beaucoup, parfois, de mouvements anti-comoriens à Mayotte, avec des milices villageoises qui s'inscrivent dans la tradition des sorodas dont j'ai parlé tout à l'heure, là, les soldats de la France qui veulent Mayotte française, etc. Ça, c'était avant 75. Et ils ont fait des petits. Donc, je ne vais pas énumérer. Il y a eu beaucoup de choses, des émeutes anticomoriennes, pour un oui ou pour un non, en les accusant de tous les maux, finalement, de Mayotte. Et ça, c'est depuis les années 80. Donc, le problème en eau, c'est les Comoriens. Les problèmes scolaires, c'est les Comoriens. La saturation des infrastructures sanitaires, c'est les Comoriens. Les maris qui veulent plus de leur épouse mahoraise et qui trouvent mieux ailleurs, c'est les Comoriennes, etc., etc. Ça monte en puissance. 2003, incendie sur ordre du maire du village de Bandrélé, incendie d'un village de pêcheurs sans papier sur le bord de la mer, 28 cases incendiées. Ce monsieur Moussa Madi n'a jamais été inquiété en quoi que ce soit. Opération de décasage sauvage avec croix rouge sur les portes des baraques et autres habitats de fortune, pour que la police puisse hein, pour qu'on puisse faciliter le travail de la police pour venir chercher les sans-papiers. Donc la police qui se promène donc depuis l'époque, hein, avec des camions bleus grillagés, et puis qui charge voilà, femmes, enfants, comoriens, sans-papiers, parfois sous les acclamations de la population. Alors ça, c'est des choses personnelles que je rapporte, hein, ça je l'ai vu, je l'ai vécu, enfin... Et il ne s'agissait pas de venir s'interposer en disant « Mais attendez, vous rigolez, ça ne va pas ou quoi là ? Vous êtes des gros fachos, là, sinon on se fait démonter la tête vite fait. » Donc il y a une vraie hostilité cultivée à Mayotte vis-à-vis des trois autres îles. Donc ça s'est traduit par beaucoup d'exactions. Et donc on arrive à Ouambouchou, qui n'est pas la première grande opération développée par l'État français pour soi-disant lutter contre l'immigration clandestine comorienne, l'insécurité, la délinquance, parce que tout ça est mis sur un même dénominateur commun. En 2019 ou 2018, il y a eu l'opération Chicandra. Donc Ouambouchou, ça s'inscrit dans cette logique, dans cette généalogie. Et c'est porté donc, officiellement par l'État français, puisqu'il n'y a aucune contradiction entre la politique coloniale, pro-coloniale de l'État français à Mayotte, impérialiste aux Comores et les menées des milices villageoises et ce qu'on appelle maintenant les collectifs. Donc vous en avez peut-être entendu parler, ces collectifs là qui soutiennent l'opération Ouambouchou, qui l'exacerbent, qui mettent même la main à la pâte. Après c'est intéressant de voir les propos aussi. Par exemple, il y a le maire d'un village qui s'appelle Chiconi qui a mis qui a ouvert une ligne de téléphone gratuite pour que les gens de la population puissent signaler toute, comme on a dit, situation problématique. Il y a un autre maire aussi qui a dit « Bon, mais de toute façon, à un moment donné, on va donner les listes des personnes indésirables. » Et puis, comme vous avez entendu, il y a Salim Mdéré, qui est le premier vice-président du Conseil général, qui avait dit « À un moment donné, il faudra peut-être en tuer. Hein, » ouais. ça... Il y a Estelle Youssoufa aussi, qui est une des deux députées de Mayotte, qui appartient au groupe Lyot, dont on a un peu parlé, parce que c'est de leur manche qui était sortie, cette fameuse motion de censure là, pour les réformes des retraites. Alors elle, bon, elle tient un discours à mi-chemin entre Éric Zemmour et Marine Le Pen. Elle parle de bébé barbu, quand elle fait allusion à des Comoriens, enfin à des ressortissants des trois autres îles des Comores, qui effectivement sont un petit peu plus âgés que la moyenne et qui malgré tout arrivent et sont en situation d'être scolarisés à Mayotte. Donc elle dit « Oui, maintenant, à l'école primaire, vous avez des bébés barbus. » Donc ça, c'est une manière de parler de Comoriens préadolescents déjà, mais qui reprennent au CE2, CM1, enfin bon, etc. Il y a ça. Et il y a Mansour Kamardine, qui est un vétéran du sarkozysme. Déjà, à l'époque, il sévissait. C'est le groupe LR. Hein. Et lui, il est vraiment très virulent. Alors lui, c'est un grand remplaciste. Et il adapte la théorie du grand remplacement, mais à Mayotte. Donc Mansour Kamardine est très remonté voilà, contre les magistrats, contre RESF, contre la FSU, contre la CIMAD, contre Médecins Sans Frontières, toutes les associations qui interviennent dans les quartiers à Mayotte. Et contre ceux, il dit qu'ils se spécialisent dans l'obtention de titres de séjour pour les Comoriens des trois autres îles. Donc il y a une classe mahoraise qui est unanimement pour l'opération Ouambouchou. Les collectifs essentiellement féminins, puisque, alors je dis un petit mot quand même là, genre et colonialisme, ça serait un truc. Les femmes sont l'avant-garde depuis les années, fin des années 50, début des années 60, du mouvement en faveur de Mayotte française à Mayotte. C'est une spécificité. Alors pas de Mayotte, mais bon, ça s'explique pour des raisons, soyons matérialistes, hein, ça s'explique pour des raisons anthropologiques concrètes. Quoi. C'est que l'archipel des Comores, et Mayotte donc, sont des sociétés matrilinéaires, donc où c'est la lignée des mères, des filles, des petites filles, hein, qui structurent la généalogie familiale. Cette matrilinéarité s'articule à une matrilocalité, c'est-à-dire que traditionnellement c'est la mère qui est propriétaire de sa maison, et c'est le mari qui vient habiter dans la maison de son épouse. Et s'il est polygame, il tourne sur la semaine dans les différentes maisons de ses épouses. Mais c'est-à-dire que s'il y a un problème et qu'il y a une séparation, la femme dispose de sa maison. C'est lui qui rentre chez sa mère, c'est le gars qui retourne chez lui, quoi. Donc c'est matrilinéaire, c'est matrilocal et c'est matrifocal, comme on dit en anthropologie, c'est-à-dire que la référence tutélaire quoi, de la famille, c'est la mère, donc la femme, etc. Et c'est la raison pour laquelle le mouvement populaire maoré s'est structuré à partir de tous ces réseaux de sociabilité féminine, matrimoniale, villageoise, etc., qui ont été les fers de lance et même les activistes de Mayotte française. Et avant l'indépendance, c'est ce qu'on appelait les chatouilleuses. Et les femmes aujourd'hui qui sont à la pointe du mouvement pro-Wambushu à Mayotte se revendiquent les descendantes, bien sûr, des chatouilleuses. Il y a toute une mythologie des chatouilleuses, il y a même eu des martyrs, la jeune Zakia Madi qui est abattue dans le cadre de RICS à la fin des années 60, etc. Il y a un collège qui porte le nom d'une ancienne chatouilleuse, Zenam Dere. Bon, bref, voilà. Donc il y a vraiment quelque chose de très féminin. C'est assez intéressant, dans le mouvement procolonial à Mayotte. Pour terminer, le mot banga, ça désigne à l'origine, je ne sais pas si vous avez entendu, Darmanin dit en avril, voilà, nous allons détruire l'écosystème de ces bandes criminelles, et donc nous allons détruire les bangas. Et puis je me dis, putain, quand même, merde, les bangas, c'est pas ça, quoi. Je vais vous dire après. Puis je regarde, etc., et je vois que les politiciens maorais, les collectifs, alors la presse en France, bien sûr, dit « Oui, voilà, aujourd'hui, 25 bangas détruits, etc., etc. » Bon, je vois, par exemple, voilà, Le Monde, qui traduit le mot « banga », si on est sérieux, le journal de tous les pouvoirs, vous savez, Le Monde. Donc, 1000 bangas, et entre parenthèses, Le Monde rajoute « maison de tôle ». Même le porte-parole du gouvernement comorien, j'ai peut-être pas assez parlé des Comores, de leur complicité par rapport à la France, mais on y reviendra peut-être, dit « oui, oui, il y a des démolitions de bangas et c'est une bonne chose ». Alors un banga, traditionnellement, c'est une petite maison, en général, de torchis, décorée, peinte, etc., que le jeune préadolescent, arrivant à la puberté, là, se construit à l'écart sur la concession familiale, quoi, un peu là-bas, à la lisière de la bananeraie, à la lisière des champs, à l'écart de la maison maternelle, à l'âge de 10-11 ans, pour avoir son autonomie de jeune garçon, et surtout peut-être ne pas être en contact, à son âge désormais, avec les sœurs, qui elles restent dans la maison maternelle. Et je me souviens à l'époque, à la fin des années 90, ben, au collège et tout, enfin, il y avait un concours de banga à Mayotte qui était organisé, alors chaque préadolescent rivalisait... être préadolescent et jusqu'à ce qu'il se marie d'ailleurs. Voilà, après il fait sa jeunesse et rivaliser de décoration et tout, enfin, c'était génial. Mais même encore au début des années 2010, quand j'y allais, le mot n'avait pas de connotation péjorative. Et là, visiblement, il y a une sorte d'assimilation, quoi, de destruction encore du langage. C'est que le banga, c'est la baraque de tôle de l'immigré comorien. C'est surprenant de voir comment un mot qui est vraiment au cœur même des processus d'autonomisation, d'individuation, de la construction des générations, des jeunes garçons, etc., enfin, qui participent aussi d'ailleurs d'un rapport à l'aménagement, d'un rapport traditionnel à l'occupation du sol, à l'habitat, etc., c'est complètement dézingué, quoi, et ça devient maintenant vraiment la lie, quoi. C'est des bangas. Je vois tous les politiciens maorais, ils parlent de ça, ils ont une moue là, de mépris, quoi. Donc voilà, ces bangas, à l'origine, ben, c'est quelque chose de tout à fait intéressant et c'est devenu le logement de l'autre, quoi. Au point que le porte-parole du gouvernement comorien, voilà, dit « oui, oui, on a détruit des bangas et c'est très bien ». Donc même eux, quoi, ils sont complètement déracinés et désencastrés, quoi, de leur propre substrat traditionnel, culturel, anthropologique, quoi. Même le représentant de la France insoumise à Mayotte, là, ça avait fait un peu gloser d'ailleurs dans la presse nationale, Miki Dadi, ben lui, s'il parle trop fort et qu'il commence à dire « ouais, mais quand même, bon, il est politiquement mort ». Et déjà, si c'est que politiquement, ça va, quoi. Donc ça, pour terminer, je dirais que ça, peut-être ça a tendance à perturber un peu nos schémas, peut-être des fois, d'ici, quand on regarde forcément, voilà, l'impérialisme, le colonialisme français, etc., on a l'impression qu'il y a deux sujets, il y en a un qui domine, c'est l'État français, et puis il y a des dominés qui subissent. Et là, ce qu'il faut voir, c'est que de la part d'une immense partie de la population mahoraise, il y a une autonomie d'action et une agentivité, là, comme disent les universitaires, pro-coloniale, qui est extrêmement importante. Enfin, quiconque a suivi un peu semaine après semaine l'actualité autour de Wambushu Ah, bien entendu, ce son de cloche, là, de la part des collectifs maorés, des manifestations en faveur d'Ouambouchou, des appuis. Il n'y a pas que la classe politique, quoi. C'est vraiment... Et les femmes sont à la tête de ça. Alors après, oui, quelle solution, quel truc, moi je sais pas, je n'ai pas de grandes analyses politiques à proposer, hein. Même une analyse de classe, c'est pas évident à immiscer là-dedans, parce qu'il y a une telle fiction identitaire qui est entretenue à Mayotte, que ça occulte justement les disparités de classe, qui sont de toute façon importantes, certes, mais comme ailleurs.
Jusqu'à 13h30 sur FPP 106.3 FM et on continue de vous diffuser une intervention autour de l'opération Ouambouchou qui se déroule à Mayotte.
Dont il va être question ce soir, c'est l'histoire algérienne de la France, donc c'est Nedjib qui va nous le présenter. Et à un moment donné, il parle de l'action française justement qui était vachement... vachement impliqué quoi, par rapport à cette histoire-là de l'indépendance, et après l'indépendance de l'Algérie, ben, l'action française donc aussi très, très impliquée à Mayotte. Donc, je vous l'ai dit à l'époque, hein, ils font du lobbying de manière très, très rapprochée vis-à-vis de Chirac, Mesmer, tout ça, Debré. Michel Debré, qui à l'époque était député de La Réunion, parachuté pour contrer Paul Vergès, le frère de Jacques, qui avait monté le Parti communiste réunionnais en 1959, qui n'avait rien à voir avec le Parti communiste français. Il y a des enjeux à l'époque là, qui sont entrés. Et donc Pierre Pujol, qui était le leader de l'action française à l'époque, a vraiment beaucoup, beaucoup œuvré pour ça. Il y a un député, il y a un Maoré aussi, enfin un Maoré, qui avait des origines grandes comoriennes, qui s'appelle Adrien Giraud. Donc, son nom n'indique pas qu'il avait des origines grandes comoriennes ni maoraises, mais c'est comme ça. Et lui, il avance souvent, Giraud, comme Pujol, le thème des harkis. On en parlait tout à l'heure. Je vais peut-être terminer sur ça, parce que ça fera la jonction avec ce soir, enfin, c'est intéressant. Pierre Pujol, il dit à Jacques Chirac, mais si tu lâches Mayotte, les Mahorais vont subir, de la part des ressortissants des trois autres îles, c'est complètement délirant, hein, le même sort que nos harkis ont subi en 62 à Mayotte. Donc il y a cette référence aux harkis. Adrien Giraud lui-même, qui a tenu la chambre de commerce pendant 25 ans, je me souviens, il y était, quand j'y étais, il n'y avait pas un petit artisan qui pouvait monter sa boutique sans passer par, sans graisser la patte à Adrien Giraud. Et Adrien Giraud, lui, c'est pareil, j'ai découvert aussi en faisant quelques recherches, que lui, il mobilisait l'imaginaire des harkis, en disant que voilà, si jamais Mayotte est lâchée par la France, ça y est, on est tous zigouillés, quoi, comme des harkis. Il y a une angoisse de l'abandon aussi, j'essayais de développer ça, mais pas trop. Il y a une angoisse d'abandon de la part de Mayotte vis-à-vis de l'État français. Il y a vraiment quelque chose de très profond, quoi. La peur d'être abandonné. Et en maoré, on dit « manienié », quoi. L'État manienié. Manienié, ça veut dire c'est mal fait, c'est bricolé, etc. L'État bricolé. Et quand à Mayotte, on parle de l'État manienié, c'est non seulement peut-être en constatant que quand même les infrastructures tardent un peu à... Hein, être mise à jour, parce qu'il y a un gros problème par rapport à ça. Mais c'est aussi que, voilà, c'est pas... Il y a l'impression que Paris ne met pas la gomme, quoi. Il s'implique pas comme il le devrait, quoi. Et ça fait le jeu des immigrants comoriens, etc. C'est l'État manienié, quoi. Ils sont pas assez là. Et Ouambouchou est en train d'être critiqué depuis la visite de Darmanin, 24 et 25 juin, parce qu'on considère que la CRS-8 a quitté Mayotte d'urgence suite aux révoltes consécutives à la mort de Naël. Et là, j'ai vu la semaine dernière qu'il y a des barrages routiers de nuit qui ont été montés à l'initiative de bandes, tout ça et tout. Donc, c'est en train de dire « Ah, regardez, la CRS 8 de sinistre mémoire est repartie. Et donc, ça y est, les bandes reprennent la rue la nuit, refont des barrages, etc. etc. Donc, il y a une insatisfaction à Mayotte, qui est politiquement entretenue aussi hein, par des politiciens, tout ça. Depuis la fin juin, il y a une insatisfaction par rapport aux résultats de l'opération Ouambouchou. Safina Soula, qui est la leader du collectif des citoyens de Mayotte, dit que c'est tous les Comoriens soi-disant sans papier, mais après on ne sait plus trop aux Comoriens, sans papier, Comoriens, il y a une sorte de porosité dans le discours et dans la propagande, toujours entre les deux. C'est tout ça qu'il faut tous les renvoyer. Les cases, il faut tout raser. Donc il y a vraiment un discours, comment on disait, maximaliste à une époque, mais alors là, pour le coup, pro-colonial. Donc voilà, les harkis. Je termine juste sur, en 1976, un an après l'indépendance, ce mot harki, il est retourné dans l'autre sens, on en parlait avec Nejib tout à l'heure. Il y a un bouquin qui paraît aux éditions L'Harmattan, qui est intitulé « Encore la France coloniale », et qui est un livre qui est fait à l'initiative du collectif des chrétiens pour l'autodétermination des départements et territoires d'outre-mer. Et dans ce livre, qui parle à l'époque de Djibouti, parce que Djibouti, c'est un an après, c'est 77, l'indépendance, qui parle de Mayotte, il y a un chapitre intitulé « Les harkis de Mayotte ». Mais alors là, cette fois-ci, c'est pas pour pleurer et dire « Au secours Chirac, au secours Giscard, on va finir comme les harkis », c'est pour dire que les Mahorais sont des traîtres à la cause de l'indépendance comorienne et que ce sont des harkis. Dans le dos. Lorsque Darmanin est venu le 24 et le 25 juin, il a déclaré au journal télévisé de Mayotte la Première, qui est la voix de son maître là-bas, il a dit « on va inverser la courbe de la démographie à Mayotte ». Alors qu'est-ce que ça veut dire « inverser la courbe de la démographie à Mayotte » ? Alors moi je suis pas spécialiste, j'ai cherché démographie, Wikipédia, j'ai vu que ça prenait en charge la natalité, la nuptialité, et le taux de fécondité, etc., etc. Bon bref. Donc ça veut dire que Darmanin, il va se préoccuper de faire intrusion, de faire un Ouambouchou de la natalité et de la nuptialité à Mayotte. C'est ça que ça veut dire, reprendre la main. Dans une autre déclaration, que je sais pas, c'est on va reprendre la main sur la démographie à Mayotte. Et reprendre la main ou inverser la courbe de la démographie pour Darmanin, c'est conditionné et articulé mécaniquement aux expulsions. Une politique démographique qui se charge de faire des statistiques des populations afin de maîtriser sa démographie, ça fait penser historiquement à des choses telles que la politique démographique du national-socialisme, par exemple. D'autant que dans le même entretien, eh bien, et on y vient, il articule ça, c'est logique par rapport à son truc. Il se met à parler, dans la foulée, quelques secondes plus tard, des faux certificats de paternité, qui seraient en lien avec des complicités dans la population mahoraise, donc il y aurait les mauvais mahorais. Voilà, et donc j'explique après, ça c'est pas dans l'article, que ça entoure d'une sorte de suspicion les unions mixtes, de fait. Par exemple, d'un Mahoré et d'une Comorienne sans papier, et les enfants issus de ces unions, vivant dans une île où on tient ce genre de propos et où on les met en œuvre au travers d'un certain nombre de politiques, par exemple d'une politique démographique de masse, j'explique que ces enfants vont devenir donc tendanciellement illégitimes et même et sans père légaux. Alors, vous voyez ce qui peut se passer dans le développement d'un enfant et d'un adolescent enfin, qui vit dans une société où l'illégitimité et l'illégalité où son père biologique est frappé d'illégalité.
Mais ça, c'est de toute façon déjà dans la loi française. Ce que je veux dire, c'est que puisque Mayotte est devenue département.
Oui, voilà.
Parce que dans la loi française, normalement, tu n'as pas le droit de te marier religieusement tant que tu n'es pas marié civilement. Il y a plein de gens qui se marient chez les immigrés, il y a plein de gens qui se marient religieusement avant de se marier civilement, comme ils font aux Comores. Mais c'est interdit, c'est-à-dire que théoriquement, les gens, c'est des imams, mais ça pourrait être des curés, peuvent être poursuivis.
Tout à fait. Alors là, il y a, j'ai pas trop creusé la question, mais je sais qu'il y a quelques années, il y avait un problème par rapport aux autorités cadiales et aux imams. Il y a eu la volonté de la part de l'État français, peut-être c'était consécutif au conseil consultatif musulman, de créer aussi une autorité légitime, religieuse, qui serait en lien avec la préfecture, avec l'accueil. Bon, là, c'est un peu... Là, j'ai pas trop d'éléments. Ce que je sais, c'est que Darmanin, en avril, a immédiatement dit que l'opération Wambushu, c'était aussi pour lutter contre l'islamisme radical qui se développait à Mayotte. Mais bon, ça, c'est systématique. Ça donne un peu de peps, quoi, au truc. Donc, voilà. Donc, moi, enfin... Oui, par rapport à cette histoire-là d'union mixte, etc. Surtout que c'est en lien avec les décasages. Enfin, décasage, ça c'est un terme colonial. Hein. Cases, décasages. Les anthropologues coloniaux parlaient des langues de cases. Quoi. Bon, bref. C'est en lien avec les décasages parce que là, il y a la notion de l'espace vital. Moi, j'aime pas trop faire des métaphores gratuites là, en réutilisant l'unicité et la singularité historique du nazisme hein, et d'aller le mettre à toutes les sauces. Mais c'est lié à la notion d'espace vital dans la mesure où Darmanin dit que plus on va détruire de bangas, ça va permettre de construire des logements. Et les bangas, c'est ceux des Comoriens, et les logements, c'est pour les Mahorais et les personnes affectées à Mayotte, métropolitains et autres. Donc c'est lié en même temps à l'idée d'un espace vital pour les Mahorais, etc. Et les collectifs Mahorais tiennent ce langage-là. Quand des femmes font des descentes dans un quartier pour aller dégommer ou décaser, comme ils disent, des familles comoriennes, c'est pour dire, allez, dégage, quoi, là, t'es tôle et tout, on va écraser tout ça, nous, on va faire une belle chose. Alors, il y a des ironies qui sont d'une violence symbolique aussi énorme. Par exemple, un bidonville a été écrasé dans la commune de Kungu, et à la place, il va y avoir une station d'épuration, parce qu'il y avait un projet. Enfin, oui, après, on pourrait... bon, voilà. Il y a un autre bidonville qui a été écrasé aussi, pareil, sur la commune de Kungu, et là, à la place, ils vont construire un lycée du bâtiment. Enfin, il y a des ironies vraiment énormes. Alors, Kungu, on en parle beaucoup. À l'époque, je connaissais le gars qui était maire de Kungu. Ouais, ça vient de loin, hein. C'est vraiment un pourrissement, quoi, depuis des décennies, en fait, quoi. Raos, il s'appelait, quoi. Et Raos, ouais, c'était un gars qui avait fait des études d'histoire à Toulouse, qui avait fait écrire sa maîtrise d'histoire par sa copine toulousaine à l'époque. Et puis une fois la maîtrise en poche, il est rentré à Mayotte, il tenait des discours extrêmement ambigus. Certains disaient que c'était un petit Mobutu en herbe, d'une misogynie vraiment infecte. Et lui, il jouait sur plusieurs tableaux, et je me souviens qu'à l'époque, dans sa commune, pour régler des comptes avec je ne sais trop qui, il avait adopté une sorte de politique d'appel par rapport à l'implantation de tout un tas de quartiers, justement, de ressortissants issus des trois autres îles. Il favorisait, disons, l'implantation, voilà, de gens sur sa commune qui arrivaient des trois autres îles. Bon, Kungu s'est très vite retrouvé... à ces manipulations-là, ben, ils ont éclaté entre les doigts, quoi. Alors, maintenant, Raos, c'est fini, hein, il est loin. Et la situation est effectivement assez inextricable sur la commune de Kungu. Mais c'est lié à plusieurs facteurs, et surtout à la manipulation, à la prise d'otage politicienne des ressortissants des trois autres îles dans la vie politique mahoraise.
Marseille est la deuxième ville comorienne du monde après Moroni. Et des Comoriens avec qui j'ai discuté m'ont décrit quand même une situation coloniale assez apocalyptique, c'est-à-dire un régime où il est interdit de produire quoi que ce soit, où tout est importé et où le gouvernement palpe toute sa richesse des taxes d'importation et où en gros l'île vit des subsides de l'immigration des trois îles. Donc je voulais un peu que tu me confirmes que ce type d'économie n'a pas changé, ce qui évidemment provoque une misère assez incroyable. L'autre question, c'est que je crois bien qu'à Mayotte, Marine Le Pen l'a nettement emporté aux dernières élections présidentielles. Mais en même temps, il y a eu dans la dernière période des grands mouvements sociaux un peu semblables à ce qu'on a pu connaître dans les Antilles ou la Réunion, sur la vie chère, sur le chômage, sur la pauvreté. Est-ce que dans ces mouvements sociaux, il y a eu une jonction entre Mahorais dits de souche et Comoriens, ou est-ce que ça a vraiment été des mouvements indépendants? Voilà, c'est ça que je voulais savoir.
Oui, oui, oui. Oui, les années 2010, là, jusqu'à il y a encore quelques temps, jusqu'à la fin des années 2010, il y a eu des gros mouvements sociaux liés effectivement à une revendication de mise à niveau hein, des droits sociaux, des salaires, etc. Les mouvements contre la vie chère, il y a eu aussi à La Réunion. Hein. Moi, j'ai été aussi longtemps à La Réunion. Donc là, ça a été simultané d'ailleurs quasiment. Alors après, évidemment, que des gens d'origine comorienne, ayant la nationalité française, travaillant à Mayotte, salariés, se soient retrouvés dans ces mouvements sociaux, je pense que oui. Voilà, enfin, je veux dire, à un moment donné, si on se laisse happer par ce distinguo systématique entre « Ah ouais, mais attends, t'es ressort... » Voilà, sans doute qu'il y avait des gens... Comoriens et Français qui étaient dans ces mouvements sociaux. On ne va pas faire de distinction. La jonction avec le lumpen, quoi, parce que c'est ça en fait, hein, la jonction avec tout ce lumpen prolétariat des champs, des chantiers, parce que les entreprises de travaux publics ne se gênent pas, et des cours de maison et des plantations familiales et domestiques dans lesquelles on les fait travailler, bon là il n'y a pas de jonction. En 2001, bon, je me souviens, oui, fin 2000 ou début 2001, il y a eu un mouvement, une grande marche de travailleurs comoriens sans papier à Mayotte. Alors là, c'était vraiment exceptionnel, je pense que c'est la seule fois. Ils sont partis de la ville de Sada, qui est sur la côte ouest de Mayotte. Ils se sont rassemblés, ils étaient plus d'un millier. C'était énorme. Et ils ont marché, ils ont traversé l'île et ils sont arrivés à Mamoudzou le soir, là, au coucher du soleil, vers 17-18 heures. Et il y a eu des prises de parole. Je me souviens d'un copain, un journaliste comorien, mais qui travaillait dans un journal à Mayotte, Kamaleddine Santou, qui a vraiment très très bien, qui a fait un journal extraordinaire qui s'appelait Kashkazi dans les années 2000. Et là, il y a eu des prises de parole. Il disait, bon, soit vous nous régularisez, soit on arrête de travailler. Et comme tout le monde était plus ou moins dépendant de leur activité et de cette force de travail, depuis la société